OK, c'est qu'on commence notre étude. On est dans le chapitre 5 de l'Épître aux Hébreux. On va lire les versets 11, 5, 11 jusqu'à 6, 12 pour ce soir. C'est une parenthèse qu'on voit, une exhortation. Puis on voit que c'est après qu'on avait vu le sacrificateur, le souverain sacrificateur. Et c'est des choses importantes, c'était des choses profondes que Paul enseignait par rapport à une nouvelle sacrificature. Puis le Seigneur Jésus, c'est le sacrificateur, mais c'est aussi le sacrifice. C'est pour ça que pour nous délivrer du péché, pour nous racheter du péché, puis nous amener au ciel, c'était toute une bataille. Mais c'est le Seigneur Jésus qui l'a combattu. Il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, mais pour nous arracher du péché, pour nous sauver du péché. C'est le Seigneur Jésus qui a combattu le combat, comme on avait vu la dernière fois. Là. Il dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, au verset 7 du chapitre 5, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc, la bataille qu'il y a eu, c'est le Seigneur Jésus qui l'a fait pour nous autres. Le sacrificateur, dans l'Ancien Testament, il sacrifiait un animal. Mais ici, pour le Seigneur Jésus, c'est le grand souverain sacrificateur. Puis lui, non seulement il était le sacrificateur pour offrir le sacrifice, mais il était aussi le sacrifice. Puis c'est là que c'est la bataille que le Seigneur Jésus a combattue pour nous donner la vie éternelle. Ça fait qu'on va lire maintenant la parenthèse en rapport avec ce qui a été dit auparavant, que ce que le Seigneur Jésus a fait. Ben, Paul, maintenant, donne une exhortation. C'est une parenthèse, puis il donne une exhortation au verset 11 du chapitre 5. Il dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Donc, on va s'arrêter là pour ce soir, puis on va parler sur cette parenthèse-là, cette exhortation-là que Paul amène ici. Et avant, on va demander au Seigneur de nous aider dans cette étude. Seigneur notre Dieu, on est devant toi encore. On est devant toi comme des enfants, Seigneur, qui ont besoin que tu puisses nous ouvrir la compréhension pour qu'on puisse comprendre ta parole, puis non seulement juste la comprendre, Seigneur, mais la mettre en pratique dans nos vies, puis l'apprécier, Seigneur. Apprécie ton Fils, le Seigneur Jésus, lui qui est le grand souverain sacrificateur. Il est le seul qui est souverain sacrificateur et aussi en même temps le sacrifice qui a été offert pour nous racheter de nos péchés, afin qu'on puisse être dans l'éternité avec toi, Seigneur. Quel grand salut il a accompli. Oui, c'était une lutte terrible, mais lui, il a vaincu. Et il est mort selon les Écritures, il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Seigneur, on te remercie pour le Seigneur Jésus qui est vivant maintenant pour intercéder pour nous tout au long de notre route vers le ciel. On t'en rend grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. OK. Donc, comme on a dit ici, c'est une parenthèse. Paul, dans son enseignement, il s'arrête un peu pour donner une parenthèse et une exhortation en même temps. L'instruction, puis on voit ça, l'instruction est jumelée toujours avec l'exhortation. Ça, c'est important d'avoir l'instruction parce que si on a juste la connaissance, puis on n'a pas l'exhortation pour mettre cette connaissance-là en pratique, bien, ça devient inutile dans un sens parce que, comme il nous dit, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Et puis, elle n'est pas profitable. Le Seigneur Jésus même avait dit dans Jean 13 au verset 17, il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Donc, c'est important avec la connaissance qu'on la pratique. C'est quelque chose, c'est pas juste une connaissance intellectuelle, mais ça vient prendre notre cœur pour nous amener à avancer dans la voie. L'auteur, il s'arrête un moment ici, l'auteur de l'Épître, il s'arrête ici un peu il voudrait pousser plus loin dans cet enseignement profond, comme il appelle la nourriture solide, mais il a peur qu'il ne soit pas capable de la prendre, qu'il ne soit pas capable de la supporter, parce que c'est comme une nourriture solide. Puis, donc, c'était le cas aussi avec l'enseignement de Paul. Paul, il donnait un enseignement profond, mais il fallait être capable de le recevoir, il fallait être exercé. On va voir ça en avançant. Pierre disait ça de Paul dans 2 Pierre 3, versets 15 à 16. Il disait, et croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Donc, il faut, comme Paul disait, il faut être capable de dispenser droitement de la parole de Dieu. Il faut être par l'usage, on apprend à avancer puis à comprendre et à mettre en pratique la parole de Dieu. Donc, Paul, en parlant ici de ces choses-là, il se réfère à l'Ancien Testament, puis les Hébreux connaissaient la loi et les choses de l'Ancien Testament. Donc, ces choses-là qui leur parlaient du sacrificateur, la loi aussi, le message, toutes ces choses-là, c'était des choses que eux étaient familiers avec parce que ayant grandi dans le judaïsme. Donc, c'est des choses qui sont en vue ici, ayant été dans le judaïsme. Donc, il ne leur manquait qu'une chose. C'est comme s'il y avait eu cet enseignement-là, ils l'avaient dans leur pensée, du fait qu'ils avaient grandi dans le judaïsme, mais il leur manquait la clé pour comprendre, pour déborder ou déverrouiller cet enseignement-là afin qu'ils puissent maintenant l'assimiler. Puis cette clé-là, la clé de l'énigme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que l'auteur ici, il met le Seigneur Jésus-Christ dans ces choses-là. Il leur prend les choses du judaïsme, puis il leur montre que ces choses-là concernaient, c'était l'ombre des choses à venir, mais maintenant, la réalité, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens 3, Paul disait, au verset 14 à 16, en parlant des Juifs, il dit, mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Donc, ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il se réfère beaucoup à l'Ancien Testament. Donc, il dit, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, ils ne se lèvent pas, le voile, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Et vous, c'est ce que Paul dit, là, quand les Juifs, avec toute la connaissance qu'ils ont de l'Ancien Testament, du judaïsme, de la loi, de tous les sacrificateurs, toutes ces choses-là qui étaient dans l'Ancien Testament, il leur manque une clé pour le comprendre, c'est quand ils se convertissent au Seigneur Jésus, le voile est enlevé, puis maintenant ils peuvent comprendre ces choses-là. Un peu comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, hein, quand le Seigneur Jésus a pris dans toutes les Écritures les choses qui le concernaient, puis il leur a ouvert l'Écriture pour montrer que les choses qui le concernaient lui, donc il mettait sa personne dans ces Écritures-là, puis eux, là, maintenant, ils les assimilaient, ils les comprenaient. Quand le Seigneur Jésus faisait cela, ça leur rouvrait la compréhension de toutes ces Écritures-là. Puis c'est pour ça qu'il disait, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous pendant qu'en chemin, il nous parlait. Donc, c'est comme quelqu'un qui a grandi dans une famille chrétienne, dans un sens, qui n'est pas sauvé, mais qui a grandi dans une famille chrétienne. Quand il se convertit, lui, il peut avancer plus vite dans l'enseignement. Parce qu'en ayant le Seigneur Jésus, en comprenant la personne du Seigneur Jésus-Christ, ben là, il comprend l'enseignement qu'il a eu en grandissant dans la famille chrétienne. C'est sûr que pour plusieurs de nous autres, on a été sauvés, on n'a pas été élevés dans une famille chrétienne. Puis, toutes les mêmes les choses élémentaires de la parole de Dieu étaient pour nous quelque chose de nouveau. Là. On ne savait pas. Moi, je me souviens, j'avais entendu parler de l'entretien de Jésus avec Nicodème, puis j'avais aucune idée qu'est-ce que c'était, puis où c'était dans la Bible. Mais maintenant, on connaît l'entretien de Jésus avec Nicodème, c'est dans Jean 3. Puis, avec l'usage de la parole de Dieu, on comprend ces choses-là, on se réfère à des points, puis des fois, comme en parlant comme ça, si on a la parole de Dieu dans notre cœur, mais quand quelqu'un parle, puis qu'il va citer ou qu'il voit des choses de la parole, bien, nous, ça nous amène toute l'histoire, là. S'il va citer peut-être une partie du verset, puis le reste de l'histoire, on la connaît à cause de l'usage, à cause d'avoir été dans la parole de Dieu. Donc, c'est ça. Mais donc, celui qui est élevé dans une famille chrétienne, il lui manque la clé aussi. Comme les Hébreux ici, il leur manquait la clé pour comprendre tout cet enseignement-là profond que l'auteur ici de l'Épître aux Hébreux leur faisait connaître. Il leur ouvrait les Écritures là, en leur montrant le Seigneur Jésus. Mais le lait est bon. Oui, c'est comme il dit, vous en êtes encore au lait. Ben, le lait est bon. C'est sûr qu'au début de notre vie chrétienne, on a besoin de lait. Un petit bébé qui vient de naître, on ne lui donne pas de la nourriture solide, il n'est pas capable d'apprendre. C'est que ça y prend du lait, mais c'est pas mauvais du lait. C'est juste qu'il ne faut pas rester au lait. Il faut commencer avec le lait, mais ensuite de ça, il faut grandir pour être capable d'assimiler plus profondément la parole de Dieu. Puis, vous savez, c'est très important pour nous qui sommes chrétiens. Pour vivre notre vie chrétienne, on a besoin d'avancer dans la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il s'arrête ici pour donner une exhortation. Une exhortation, c'est comme un coach dans des sports. Il va s'approcher de l'athlète, puis il va l'instruire, puis en même temps, il va le pousser pour qu'il donne son maximum. C'est un peu ça, une exhortation dans la parole de Dieu, c'est de donner l'instruction, puis en même temps, pousser pour que pour qu'on performe davantage. Donc, mais quand on ne doit pas rester au lait, on doit avancer dans la parole de Dieu. Un chrétien qui ne lit pas sa Bible, il ne grandira pas, il va rester au lait. Puis c'est ça qu'il leur dit ici, parce que là, il est en train de leur enseigner des choses très profondes, très grandes. Mais après qu'on a grandi, ben là, on peut prendre de la nourriture solide. Mais l'expérience et l'usage, c'est le seul moyen d'avancer dans la parole. Parce qu'on en vient, c'est comme quand si on se tient avec quelqu'un, ben on finit par le connaître. Puis plus on pense comme dans la relation de mariage, si on a une bonne relation de mariage, ben on en vient à connaître l'autre dans ce qu'il pense. Puis des fois, moi je trouve ça tellement beau, un couple âgé, ben on s'en va là, tout, mais un couple âgé, ils peuvent être, moi j'ai comme quelque chose que je vois comme un monsieur puis une madame, assis sur la galerie en train de se bercer, puis ils voient quelque chose. Puis ils se regardent, ils se disent rien. Parce qu'ils savent qu'est-ce que l'autre pense. Ils n'ont même pas besoin de parler. C'est que la communication est devenue tellement profonde qu'il y a juste le regard. Juste de se voir, juste de voir, puis d'avoir vu la même chose, ils se regardent, puis ils savent qu'est-ce que l'autre en pense. Mais c'est comme ça avec la parole de Dieu. Quand on est tellement imprégné de la parole de Dieu, qu'on est tellement. On passe du temps dans la parole de Dieu, puis il n'y a pas de solution miracle. Il faut passer du temps chaque jour dans la parole de Dieu. Je me souviens, au début de ma vie chrétienne, Ralph Salis, à toutes les fois qu'il parlait, il mettait toujours l'emphase sur la lecture de la parole de Dieu. C'est pas juste pour le pasteur, c'est pas juste pour celui qui est en avant, c'est tout le monde, les hommes, les femmes aussi. Les femmes ont besoin de grandir dans la parole de Dieu. Puis c'est très important parce que c'est la maturité, c'est qu'on apprend l'usage de la parole de Dieu. L'usage de la parole de Dieu nous donne le discernement. Il y avait un jeune homme qui écoute toutes sortes de choses en ligne, sur l'Internet, sur YouTube, puis sur tous les autres médias. Puis j'ai dit, tu peux pas faire ça. Il y a tellement de confusion là-dedans. Il y a des bonnes choses, mais il y a des très mauvaises choses aussi. Puis pour être capable de discerner, il faut que tu aies lu la parole de Dieu. Prends le temps de lire la parole de Dieu. Ensuite, tu vas pouvoir discerner ce qui est bien puis ce qui est mal. Parce que ça, c'est important. Mais c'est ça, c'est l'usage. C'est ça qu'il veut dire ici, là, quand il parle de l'usage de la parole de Dieu, là. Il dit, au verset 14, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Parce que à force de lire la parole de Dieu, on en vient à penser, à savoir comment Dieu pense. On apprend à le connaître. On apprend, un peu comme les disciples, quand ils ont passé 3 ans et demi avec le Seigneur Jésus, ben, ils savaient, ils l'ont vu dans différentes situations. Ils ont vu ses réactions, ils ont entendu sa parole, ses enseignements. Ils le connaissaient, ils ont appris à le connaître. Puis c'est très, très important pour des chrétiens d'apprendre à connaître le Seigneur dans sa parole. Donc, il faut passer du temps dans la parole. Ça devrait être notre désir. Vous savez, quand tu as un enfant nouveau-né, il naît, moi, je mets ça, aussitôt qu'un enfant naît, là, ben, il cherche à manger. Et moi, je mettais mon doigt sur la joue, puis il se tournait parce qu'il voulait du lait, là. Je mettais le doigt sur l'autre joue, puis j'arrêtais parce que des fois, il venait fâché. Mais ils ont un désir de vouloir se nourrir. C'est vraiment primordial. Puis au début de notre vie chrétienne, on est comme ça. Hein, on a besoin de la parole de Dieu, donc on la comprend, puis on cherche. Ma belle-fille, quand elle était sauvée, il parlait à l'église où elle était, il parlait sur Jacques. Elle a lu 52 fois l'épître de Jacques. Elle voulait savoir de quoi qu'il parlait. Elle lisait la Bible. Je me souviens aussi au début de ma vie chrétienne, je travaillais dans le bois, puis quand la scie manquait de gaz, je remplissais la scie de gaz, puis je lisais un chapitre dans le Nouveau Testament. C'est pour ça que je continuais. Parce que je voulais tout l'avoir tout d'un coup, là. Mais faut toujours qu'on ait ce désir-là. Surtout quand on avance encore plus dans la parole de Dieu, bien là, on commence à découvrir des choses plus profondes. Puis ça nous encourage, puis ça nous aide à grandir, puis à être capable d'en prendre encore plus. Mais imaginez-vous, on n'a pas besoin d'avoir peur. On n'exaucera pas la parole de Dieu. Je suis certain, je suis convaincu que il y a des frères des sœurs qui ont appris la parole. Ils nous sortent des choses de là-dedans. On se dit, waouh, d'où ça devient ça? Mais c'est pas compliqué, c'est simple, mais il fallait comprendre. Puis quand on va arriver dans la présence du Seigneur, là, je pense que quand le Seigneur va nous enseigner des choses, là, ça va être la vraie nourriture solide. Mais en attendant, on doit chercher cette nourriture solide-là. Parce que ça devrait être notre désir, parce que c'est les oracles de Dieu. C'est ça. Au chapitre 6.1, regardez, il dit, c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ. Donc, il appelle cette parole-là la parole de Christ. C'est la parole de Dieu, mais il appelle la parole de Christ. Ça, c'est encore une preuve de la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est important de comprendre ça. Le Seigneur Jésus le disait lui-même, hein. Il dit, si quelqu'un entend ces paroles que je dis et qu'il les met en pratique, il est semblable à un homme intelligent qui a construit sa maison sur le roc. Il parlait de sa parole. Puis même, il disait du Seigneur Jésus, il disait, il parle pas comme les scribes et les pharisiens, mais il parle avec autorité. Parce qu'il parlait de la parole de Dieu comme étant sa parole. Lui-même est la parole vivante de Dieu. Donc, il était la parole de Dieu. Puis nous autres, on ne peut pas faire ça. Les scribes et les pharisiens ne peuvent pas faire ça. Nous autres non plus. On ne peut pas parler de la parole de Dieu comme étant notre parole. C'est la parole de Dieu. Mais le Seigneur Jésus, étant Dieu, manifesté dans la chair, et lui, il pouvait parler de la parole de Dieu comme sa parole. Voyez-vous, dans le chapitre 6, verset 1, il dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres de mort, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Donc là, c'est ça. Là, il démontre le fondement, les éléments. Les éléments, c'est ce qui constitue les premières choses dans une, comme ici, dans la parole de Dieu. Donc, c'est où on peut dire c'est ce qui est élémentaire. Ça, c'est quelqu'un qui est sauvé devrait avoir connu ces choses-là. Ah oui, parce que c'est ça, c'est la façon d'être sauvé. Parce que quand on connaît, on apprend à connaître ces choses-là pour être sauvé. C'est important, c'est un travail de l'esprit qui nous fait comprendre la parole de Dieu pour nous emmener au salut. Donc, il parle des choses élémentaires ici. C'est pas que c'est pas important. C'est le fondement, c'est très important, le fondement. Mais il faut avancer plus loin. Mais il faut, quand on a compris ces choses-là, les choses élémentaires, bien, on avance plus loin, mais on garde toujours en tête. C'est comme si quelqu'un nous dit que, quelqu'un qui disait que le fondement qu'on avait reçu, c'était pas, c'est des traditions d'hommes. Ben non, quand on a reçu le fondement dans la parole de Dieu, c'est peut-être un autre qui nous l'a donné, peu importe qui nous a donné le fondement. On l'a vérifié dans la parole de Dieu. Puis si on l'a vérifié dans la parole de Dieu, puis on l'a trouvé vrai, bien, on le garde. Paul dit, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Ces choses-là, c'est les choses élémentaires du salut, mais qui concernent la personne du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est le fondement. Si le fondement n'est pas solide, ben, tout l'édifice va s'effondrer. Hein, celui qui a bâti sa maison sur le sable, la tempête est venue, puis la maison s'est écroulée. Donc, on a besoin, c'est les éléments de la parole de Dieu, ce qui est élémentaire dans la parole de Dieu, c'est très important. C'est pour ça que quand quelqu'un vient d'être sauvé, c'est important d'en faire un disciple. C'est important de lui enseigner ces choses-là. Puis, sont capables de les prendre d'une façon élémentaire parce qu'ils sont maintenant sauvés, ils ont l'Esprit de Dieu et ils peuvent recevoir les choses maintenant de l'Esprit de Dieu. Donc, c'est important pour les établir solidement. Puis, moi, je remercie le Seigneur qu'au début de ma vie chrétienne, il y a eu des gens qui ont fait ça pour moi. Puis, vous savez, c'est facile d'amener, c'est facile, c'est pas nécessairement facile d'amener quelqu'un au Seigneur, mais c'est merveilleux d'amener quelqu'un au Seigneur. Il faut s'en occuper. Il faut prendre soin. Puis, c'est pour ça que dans l'Assemblée, il y a des évangélistes, mais aussi des pasteurs, docteurs qui vont enseigner ces gens-là. Parce qu'un évangéliste, lui, il va passer à un autre. Mais on a besoin, c'est pour ça qu'on a besoin d'être ensemble. Un évangéliste va à l'extérieur. Dale Chalice, il disait qu'un évangéliste, c'est comme un compas. Il y a une pointe bien ancrée dans l'Assemblée, puis avec l'autre, il fait un rayon, il fait un cercle pour aller chercher, mais il les amène dans l'Assemblée. C'est pour ça que un évangéliste qui n'est pas bien fondé dans l'Assemblée, ben, il lui manque quelque chose de grand. Moi, je connais des gens qui ont amené d'autres au Seigneur, mais ils les ont pas amenés plus loin qu'eux autres, parce que les autres ne sont pas dans l'Assemblée. Ceux qui ont amené au Seigneur sont pas dans l'Assemblée et ne voient pas le besoin d'être dans une Assemblée. Donc, c'est important, ces choses-là. Il faut vraiment que quand quelqu'un est sauvé, on lui enseigne les éléments. Ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il va plus loin parce qu'il devrait connaître ces choses-là. Ils ont déjà reçu ces choses élémentaires-là. Mais il faut s'assurer que quelqu'un qui est sauvé, il faut qu'il ait c'est comme un bébé qui naît, si on ne le nourrit pas au début. Ben, il survivra pas. Mais après qu'il a commencé à grandir, là, il va être capable d'aller chercher sa nourriture. Puis il va être capable de recevoir de la nourriture plus solide. Donc, c'est important. Mais quand on a avancé là, on ne revient pas en arrière. On avance. On va baser sur ce fondement-là, sur cet fondement solide, ben là, on peut pousser vers l'avant. C'est un peu l'exhortation ici dans l'Épître aux Hébreux. C'est qu'il voulait leur montrer, vous avez reçu ces choses élémentaires-là, mais avancez, reculez pas. Avancez maintenant dans ces choses-là. Donc, c'est important d'avancer, d'aller vers l'avant en s'appuyant sur le fondement qu'on a reçu. Puis, il parle ici, il parle premièrement, du renoncement aux œuvres mortes. Le renoncement aux œuvres mortes. C'est quoi les œuvres mortes? Bien, les œuvres mortes, c'est ce qu'on se confiait dedans. Ceux qui voulaient, il y en a qui étaient religieux, puis quand on leur prêche l'évangile, ils vont nous dire, ah, j'ai ma religion, mais moi je ne fais pas de mal à personne, mais moi je fais du bien à mon voisin, moi je vais à l'église, moi je me suis fait baptiser. C'est toutes des choses sur lesquelles on était basé pour notre salut. Puis il parle d'un renoncement à ses œuvres mortes. C'est sûr que quelqu'un qui n'a pas renoncé aux œuvres mortes, tout ce qu'il avait vécu, tout ce qu'il avait voulu faire pour être sauvé, s'il renonce pas à ça, il ne peut pas être sauvé. Parce que ça serait de voler la gloire au Seigneur Jésus. Hein. Puis, vous savez, quand on va arriver au ciel, il n'y a personne qui va arriver là et va dire, ben moi, je suis ici parce que j'ai. Non. Tout le monde, dans l'humilité, on va dire, moi, je suis ici parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés. Puis, c'est difficile, cette façon-là. Vous savez, quand quelqu'un arrive à ce point-là de renoncer aux œuvres mortes, ça, c'est la repentance. Puis, c'est important que quelqu'un commence par la repentance, de tout basculer son bagage qu'il a emmagasiné pour pouvoir recevoir maintenant le salut comme un don gratuit. C'est différent de Éphésiens 2:10. Éphésiens 2:10, il dit car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça, c'est des œuvres après le salut. Ça, c'est bon. C'est le plan que Dieu a pour la vie d'un sauvé. Dieu a un plan pour notre vie. Il veut qu'on avance dans ces œuvres-là que lui a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Mais pour les œuvres qu'on aurait faites auparavant, qu'on confie là-dedans, ben, il faut en venir faire l'expérience de renoncer à ces choses-là pour pouvoir. Ça, c'est la repentance. C'est reconnaître que notre propre justice ne vaut rien. On est déclaré banqueroute. C'est pour ça que c'est ça qui est la pierre d'achoppement de l'Évangile. Vous savez, les gens, des fois dans la religion, sont prêts à accepter une religion parce que ça va les améliorer. Mais nous autres, ce n'est pas pour s'améliorer. C'est pour se déclarer perdu devant le Seigneur et devenir à lui comme quelqu'un qui n'a aucune ressource excepté le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est vraiment important. Dans Tite 3:5, il dit, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Ce n'est pas par des œuvres qu'on a faites. Puis si quelqu'un n'a pas compris ça, puis je me disais ça à un moment donné, j'étais dans l'assemblée, je regardais ceux qui étaient là, puis moi aussi, puis je me disais, on est ici, pourquoi qu'on est ici? Puis pourquoi qu'on a la même attitude envers le Seigneur Jésus? Lui, il est tout, puis nous, on n'est rien. Mais il a fallu passer par ce moment-là. Quelqu'un qui n'a pas passé par ce renoncement-là aux œuvres mortes, qui ne s'est pas déclaré banqueroute devant le Seigneur, ne peut pas être sauvé. Le Seigneur Jésus, il a dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Donc, c'est important qu'un vrai chrétien, celui qui est sauvé, il a dû passer par ce renoncement-là aux œuvres mortes. Même Paul qui était un homme a fallu que lui, puis ça a tout changé son attitude. Ça change toute notre attitude quand on vient à ce point-là de renoncer à nos œuvres mortes, de se repentir devant le Seigneur. Eh bien, ça nous change complètement. Paul, c'était un meurtrier. C'était un homme il était vraiment imbu de lui-même, de tout ce qu'il avait achevé, tout ce qu'il avait fait pour plaire à Dieu. Mais dans Philippiens 3, il nous dit, mais ces choses, peut-être on va commencer au verset 4, moi aussi cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans la chair, je le puis bien davantage. Paul était avancé là-dedans, mais dit, moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisienne, quant au zèle persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Ça, c'est les œuvres mortes. Puis Paul il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ça, c'est vraiment important. C'est le premier pas pour être sauvé. C'est de se reconnaître perdu de reconnaître que rien de ce qu'on a fait ne peut nous avoir la faveur de Dieu, la rédemption de nos péchés. Il faut complètement oublier ça. Il faut renoncer à toutes ces œuvres mortes ici. Puis après ça, c'est là, à ce moment-là, qu'on peut mettre notre foi en Dieu. Donc, le renoncement aux œuvres mortes de la foi en Dieu. Quelqu'un qui est passé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, des fois, il y a un évangile qui, on appelle ça easy believism en anglais, là. C'est une croyance facile. Il dit, crois au Seigneur Jésus, tu vas être sauvé. Mais si tu n'as pas fait l'expérience de renoncer à tout pour le Seigneur Jésus, ben, tu vas juste l'ajouter comme une autre chose. Puis, je me souviens, je parlais avec une dame, puis elle était comme fragile dans un sens, puis elle était très, très gentille, puis douce. Puis, on y parlait du Seigneur, on y parlait de notre témoignage. Puis, elle écoutait, elle est venue à la réunion de l'Évangile, puis elle était vraiment, elle semblait vraiment ouverte. Puis, je me disais, qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi qui va pas? Puis, jusqu'au temps que j'ai commencé à lui parler de l'exclusivité du Seigneur Jésus. Alors, j'ai commencé à avoir la résistance en elle. Là, elle a commencé à résister parce que pour elle, Seigneur Jésus était un autre gourou. Puis elle a suivi un gourou, puis elle était prête à en mettre un autre sur la tablette. Parce que, mais j'ai dit, si le Seigneur Jésus est vrai, il est le seul, parce qu'il était très exclusif. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Puis j'ai dit, toutes les autres sont faux. Là, ça ne marchait plus. Là, j'ai rencontré de la résistance. Puis, elle n'était pas prête à renoncer à toutes les autres pour recevoir le Seigneur Jésus et lui seul. C'est important. Des fois, il y a des gens, ah, mais il faut avoir passé par là. Puis ensuite, quand on n'avait plus rien, on a mis notre foi en Dieu. On a mis notre foi dans l'œuvre que Dieu a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, pour accomplir pour nous. Donc, c'est là qu'ayant abandonné les œuvres mortes, nous avons saisi le salut par la foi, comme Paul disait, afin d'être trouvé non dans ma propre justice, mais dans celle qui vient par la foi. Donc, le salut par la foi, on a mis la foi dans l'œuvre de rédemption de Dieu qui a été accomplie par le Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Il n'y a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. On ne peut pas ajouter ça à notre religion. Il faut vraiment tout laisser, tout abandonner pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ et le recevoir lui seul. Quelqu'un qui n'a pas fait ça, ben, il restera pas. Parce que ça ne marchera pas. Il aura pas l'humilité de rester. Parce que le Seigneur Jésus a dit qu'il fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, il faut en arriver là. Ensuite de ça, il parle de la doctrine des baptêmes. Donc, la doctrine des baptêmes, c'est vraiment le mot veut dire des lavages. C'est ça que. Mais il y a plusieurs baptêmes dans la parole de Dieu. C'est pour ça des fois que les gens, quand ils parlent de baptême, le baptême d'eau, ben, ils attribuent des choses au baptême d'eau qui ne sont pas pour le baptême d'eau. Ça peut être vrai pour un autre baptême, mais pas vrai pour le baptême d'eau. Donc, pour des gens, ils pensent que dans la parole de Dieu, il y a un seul baptême, c'est le baptême d'eau. Mais il y a plusieurs. Il nous parle ici de la doctrine des baptêmes. Le baptême, baptiser, ça veut dire plonger. C'est un mot qui n'a pas été traduit dans notre langage, soit en anglais ou en français. On a pris le mot grec, puis on l'a francisé ou anglicisé dans l'anglais. Mais c'est baptismo, ça veut dire plonger. Ça veut dire tremper. Vous savez, quand on parle de faire une trempette, on trempe quelque chose. Ben, c'est ça que le mot veut dire, baptiser, ça veut dire tremper dans quelque chose. Un objet dans quelque chose, c'est ça que ça veut dire. Donc, nous, on a été trempés, on a été plongés. C'est pour ça que quand on fait un baptême, on le fait par immersion, parce que c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire immerger. C'est pas juste vider un peu d'eau sur la tête, mais c'est vraiment de plonger sous l'eau. Ça représente vraiment qu'est-ce que ça veut dire d'être baptisé. C'est important. Quand quelqu'un meurt, on n'y met pas juste un petit peu de terre sur la tombe, on l'enterre complètement. C'est ça que ça veut dire. On était à New Richmond, puis on était pour construire un baptistère avec Daniel Dugas. Puis il y avait une funéraille dans l'après-midi, c'est qu'on n'a pas commencé, mais la directrice de funérailles est arrivée avec le tombeau, puis avec la tombe. Elle l'a mis là pour la funéraille était dans l'après-midi, puis on commençait à prendre des mesures sur la tombe, puis tout ça. Qu'est-ce que vous faites là? Ben, j'ai dit, on mesure comment ça prend grand pour faire on est en train de faire un baptême, puis un baptistère. Ben, dit, comment ça? Ben, vous n'avez pas besoin d'en faire un, vous pouvez en acheter un. Et là, on faisait un trou dans le mur pour que les gens puissent voir. Elle dit, ben, pourquoi? Vous pouvez le prendre, vous le mettez là, puis quand vous avez fait le baptême, vous l'emmenez au milieu, vous faites votre baptême. J'ai dit, tu comprends pas. Elle dit, quoi? J'ai dit, toi, quand tu les enterres, tu les enterres complètement. Hein? Tu t'enterres, quand ils sont morts, tu les enterres dans terre. Elle dit, oui. Ben, j'ai dit, nous, on les enterre dans l'eau. Elle dit, quoi? Ben oui, j'ai dit, on les enterre dans l'eau. Parce que ça, on est mort avec Christ, on a été ressuscité avec lui, puis on est enseveli, puis on est ressuscité avec lui. Elle dit, ah oui, ben oui, j'ai dit, on les plonge complètement dans l'eau. Comme toi, tu les plonges dans la terre, nous autres, on les plonge dans l'eau. Ben, elle est venue à un baptême pour voir comment ça se faisait. Elle venait toujours dans les funérailles, mais là, elle est venue à un baptême. Donc, dans les baptêmes, ben, on a premièrement, on a le baptême en Moïse. Paul nous parle dans 1 Corinthiens, ils ont tous été baptisés en Moïse dans la mer. Donc, c'était pour former le baptême en Moïse, c'était une identification, parce que comme quand ils ont passé à travers la mer, c'est comme s'ils ont été ensevelis dans la mer. Dieu avait ouvert la mer pour eux, puis ils ont ressorti vivants de l'autre côté. Ça, ils ont été identifiés avec Moïse parce que Moïse était celui qui les dirigeait pour les emmener à travers la mer, puis les faire sortir de l'autre côté. Puis c'était pour former le peuple, c'était le début. Le peuple, ils sont devenus une nation à ce moment-là. Le peuple, puis là, il les conduisait dans le pays que Dieu leur avait donné. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de guerres. Le monde, ils veulent prendre ce pays-là, mais le pays appartient à Dieu. Puis il le donne à qui il veut. Puis il l'avait donné à Abraham et à sa postérité, à cette nation-là qu'il a formée quand il les a fait sortir d'Égypte, il les a fait passer à travers la mer. Ils ont baptisé dans la mer, puis dans Moïse, puis dans la nuée. Puis c'était pour former le peuple d'Israël. Mais après ça, on a le baptême de Jean. Le baptême de Jean, c'est un baptême d'eau aussi qui est semblable, qui est pratiqué de la même façon que le baptême du croyant, qui est un baptême d'eau. Eh bien, c'était quoi? Ben, Jean était envoyé par Dieu pour préparer le peuple dans la repentance à recevoir son Messie. Donc, il fallait qu'ils reconnaissent qu'il leur manquait quelque chose. Il fallait qu'ils reconnaissent qu'ils n'avaient pas ce que le Messie allait leur apporter. Et c'est pour ça que Jean prêchait la repentance. Repentez-vous parce que le royaume des cieux est proche. Le Seigneur Jésus qui s'en venait. Quand il a vu des scribes et des pharisiens qui venaient à son baptême, il dit, race de vipères, produisez donc du fruit digne de la repentance. Ils venaient pour se faire baptiser par Jean, mais ils n'étaient pas repentants dans leur cœur. S'ils avaient été repentants quand ils se sont fait baptiser par Jean, ils auraient reconnu qu'ils étaient dans l'erreur puis que le Seigneur Jésus leur apportait la vérité. Mais ils se pensaient corrects. C'était toujours le problème qu'ils avaient avec le Seigneur Jésus, c'est qu'ils s'appuyaient sur leur propre justice. Ils n'avaient pas passé par la repentance. Mais Jean, lui, les gens qui se faisaient baptiser du baptême de Jean s'identifiaient avec le peuple repentant, Jean étant celui qui dirigeait le peuple dans la repentance, eh bien, ils s'identifiaient avec lui pour le recevoir et ils reconnaissaient qu'ils avaient besoin, qu'ils n'avaient pas ce qui. C'était ça que ça voulait dire, la repentance pour recevoir le Seigneur Jésus. Mais ces chefs religieux-là ne se sont pas repentis. Ils se sont fait baptiser comme un rituel, mais ils n'ont pas, ils se sont pas repentis. S'ils s'étaient repentis, quand le Seigneur Jésus leur montrait qu'ils étaient dans l'erreur, ben, ils auraient reçu le message. Au lieu de ça, ils disaient, nous avons Abraham pour père. Puis, ils se confiaient. Puis le Seigneur leur a dit, je vous dis, de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Ce n'est pas ceux qui étaient des enfants de la chair. Mais en tout cas, c'est toute la repentance. Ils ne se sont pas repentis. Ensuite, on a le baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est le baptême qu'on appelle le baptême des croyants. Nous, on a, beaucoup de nous autres, on a été baptisés comme un petit enfant, un petit bébé, mais ça, ce n'était pas le baptême du croyant. On voit dans la parole de Dieu que ce n'est pas des bébés qui sont baptisés, mais c'est des gens qui ont compris le salut, qui ont été sauvés. Il y a un frère qui dit, lui, il dit, si quelqu'un se fait baptiser qui n'est pas sauvé, il disait, avant de se faire baptiser, c'est un pécheur sec. Puis après qu'il s'est fait baptiser, c'est un pécheur trempe. Ça fait pas trop de différence que ça. Donc, il faut vraiment que quelqu'un ait compris le salut en Jésus-Christ Puis là, il se fait baptiser. Donc, le baptême, il a déjà vécu un baptême qu'on va voir après. Il l'a vécu spirituellement, mais maintenant, il veut l'exprimer ouvertement. Il veut l'exprimer aux autres pour dire, moi, cette chose-là m'est arrivée. Je suis mort avec Christ, j'ai été enseveli et je suis ressuscité avec Christ quand il sort de l'eau. C'est pour ça que quand on fait le baptême d'eau, ben, on demande, as-tu reçu Jésus-Christ comme ton sauveur personnel? Sur ta profession de foi, je te baptise maintenant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est l'ordre qu'on a reçu du Seigneur Jésus. Puis là, on les met sous l'eau. Ils sont morts. Quand ils sont morts, on les ensevelit. Et ensuite de ça, ils reviennent. On les ressort de l'eau. Puis, pour marcher d'une manière nouvelle maintenant, ils s'identifient publiquement. Ça ne les sauve pas. Il y a des gens qui pensent que le baptême d'eau sauve. Le baptême d'eau ne sauve pas. Mais le baptême d'eau exprime la réalité de ce qui s'est passé spirituellement dans une personne. Puis, moi, je dis ça souvent quand on voit, surtout quand il y a du tapis, quand ils sortent du baptistère, quand ils marchent, on voit leurs pas s'imprimer sur le tapis parce que ça fait des pieds trempent sur le tapis. Là, je dis ça des fois, vous voyez, on va voir ses pas jusque dans l'éternité. Puis, c'est parce que maintenant, il va vivre une vie nouvelle. Il témoigne qu'il va vivre une vie nouvelle parce qu'il veut suivre le Seigneur Jésus. Parce qu'il l'a reçu comme son sauveur, et maintenant il est aussi son Seigneur. Donc, ça, c'est le baptême d'eau qui est fait. On voit, je parlais avec quelqu'un qui me disait une fois que le baptême d'eau, c'est ça qui nous lavait de nos péchés. J'ai dit non, c'est pas ça qui nous lave de nos péchés. Il faut que nos péchés aient été lavés avant qu'on aille dans le baptême d'eau. Il exprime un autre baptême, le baptême d'eau. Puis lui, là, on était dans Romains 6, puis il dit, moi, je disais que. C'est pas un baptême d'eau, ça. Ben oui, c'est le baptême d'eau. Ben, j'ai dit, comment tu fais pour voir de l'eau dans le passage? Moi, je vois pas d'eau, il parle pas d'eau partout dans le passage. Ben, dis-toi, comment tu fais pour pas voir de l'eau? Ben, je pense qu'il n'y en a pas. Il mentionne jamais l'eau. C'est baptisé dans la mort de Christ, dans l'ensevelissement et dans la résurrection de Christ. C'est pas, ça, c'est le vrai baptême qui nous sauve. Ça, c'est ce qu'on appelle le baptême dans la mort du Seigneur Jésus-Christ. Dans sa mort, son ensevelissement, sa résurrection. Ça s'est fait spirituellement au moment où on a mis notre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, qu'on avait renoncé aux œuvres mortes, qu'on avait mis notre foi en Dieu. Ben, pour le salut de notre âme, ben, Dieu, le Saint-Esprit, nous a baptisés dans la mort du Seigneur Jésus-Christ. Il fallait qu'on meure comme pécheur. On est mort. Si quelqu'un nous dit, ben oui, mais il faut que tu meures, tu es un pécheur. Oui, je suis mort. Tu es mort avec Christ. On a été fait une même plante avec lui, du fait que quand il est mort, on est mort avec lui, on a été enseveli, puis quand il est ressuscité, bien, on est ressuscité avec lui. Moi, je l'explique des fois avec un petit homme que je mets dans ma Bible, puis là, je ferme la Bible, puis je dis, bien, partout où la Bible va être maintenant, le petit homme va être là aussi, parce qu'il est dans la Bible. Puis c'est la même chose avec nous autres. Si je mets la Bible sous l'eau, bien, le petit homme, il est sous l'eau, parce qu'il est dans la Bible. Puis nous autres aussi, on a été fait une même plante avec Christ. Du fait que quand il est mort, on est mort avec lui. Quand il a été enseveli, on a été enseveli avec lui. Puis quand on est ressuscité, quand il est ressuscité, bien, on est ressuscité nous aussi avec lui. Si on n'est pas sauvé, ça ne s'est pas passé. Mais le baptême d'eau exprime cela. Ne le fait pas, mais il l'exprime. Après ça, bien, on a le baptême, comme je viens d'expliquer, le baptême dans la mort de Christ. C'est la participation dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Il fallait passer par là pour être sauvé. Impossible d'être sauvé si on n'a pas passé par là. Mais ça s'est fait spirituellement. Après que ça s'est fait spirituellement, ça peut être. Quand ça s'est fait, on pouvait. Moi, j'étais dans ma chambre au pied de mon lit quand ça s'est fait. Puis chacun de nous autres, où on a été sauvé, c'est là que ça s'est fait. Mais après, dans le futur, je l'ai fait dans l'eau pour exprimer aux autres. C'est un témoignage public rendu aux autres que ça s'est passé réellement pour moi dans ma vie. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, ben, moi j'ai déjà été baptisé quand j'étais un bébé, faut-tu que je me fasse baptiser encore? Ben, si tu es sauvé, oui, parce que ton baptême quand tu étais bébé, il ne voulait rien dire. Maintenant, tu veux exprimer que là, ça s'est passé. Avant, ça comptait pas, mais maintenant, tu peux le faire dans le baptême. Aussi, il nous parle d'un baptême dans les Écritures, dans les souffrances de Christ. Et c'est Paul qui nous parle de ça, c'est un baptême en tant que chrétien, étant identifié au Seigneur Jésus-Christ par le baptême en sa mort, puis dans sa résurrection, puis on est, quand on a pris position dans les eaux du baptême, on est identifié au Seigneur Jésus-Christ, bien, on participe aux souffrances du Seigneur Jésus-Christ, pas pour être sauvé, mais pour témoigner, pour prêcher l'Évangile à un monde, pour accomplir l'œuvre du Seigneur. Si, vous savez, Paul, il disait, ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair. C'était pas pour qu'ils soient sauvés, c'était pour les faire grandir, pour faire l'œuvre de Dieu, pour qu'ils puissent grandir. Puis, on souffre, le Seigneur l'a dit à Paul, quand Paul était arrêté sur le chemin de Damas, il a dit, Paul, Paul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Puis il dit, qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur, il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Ben oui, mais le Seigneur Jésus était dans le ciel, mais on est le corps de Christ ici. Puis, quand Paul faisait souffrir les chrétiens, il s'est rendu compte que c'était le Seigneur Jésus qui faisait souffrir. Parce que le Seigneur Jésus, il souffre quand nous, on souffre. Parce qu'on fait partie de son corps. Lui, il est la tête, mais nous, on est ses membres. Moi, si ma main, elle me fait mal, ben, je partage cette souffrance-là. Ma tête me dit que ma main fait mal. Ou que, quelle que soit la partie du corps qui fait mal. Donc, ça, c'est le baptême dans les souffrances de Christ. Ensuite de ça, on a le baptême de feu. Jean-Baptiste nous parlait de ça, hein, il dit, il a son vin dans la main, il nettoiera son air, il va amasser son blé dans le grenier, puis il va brûler la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Il dit, lui, il vient, il va vous baptiser d'esprit et de feu. Mais le baptême de feu, il y a des gens qui pensent que c'est un pouvoir surnaturel ou le Saint-Esprit qui vient. Le baptême de feu, un vrai chrétien ne sera jamais baptisé du baptême de feu, parce que c'est le jugement. Ceux qui ne seront pas baptisés par le Saint-Esprit vont être baptisés de feu parce qu'ils n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit. On a un ou l'autre. Si on n'a pas le baptême du Saint-Esprit, on n'aura pas le baptême. On va avoir le baptême de feu. Si on n'a pas le baptême, si on a le baptême du Saint-Esprit, on n'aura pas le baptême de feu. C'est le jugement. Il dit, il ramasse la paille, il brûle la paille dans un feu, il ramasse le blé dans son grenier. Donc la paille, c'est le baptême de feu. Le blé, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ensuite de ça, on a le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pas pour parler en langue. Le baptême du Saint-Esprit dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour. Donc, quand on met le pour, c'est la raison pour laquelle on a été baptisés. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une expérience historique qui est arrivée à la Pentecôte quand l'Église a été formée par le baptême du Saint-Esprit. Pour que soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, ça ne dérange pas. On est tous un, on forme tous le corps de Christ. Tous ceux qui sont sauvés sont baptisés du Saint-Esprit pour former un seul corps. On est devenus les membres de Christ et c'est important. Au moment de notre salut, on entre au bénéfice de ce baptême-là. Du moment qu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ, qu'on est baptisé dans la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, on entre dans le bénéfice de ce baptême-là du Saint-Esprit. C'est important. Puis, c'est ça qu'on voit ici. Ça, c'est les baptêmes qu'on voit dans la parole de Dieu. C'est que c'est important de bien différencier. Parce que c'est vrai, oui, les gens ils disent on est sauvé par le baptême. Moi, je dis oui. Mais en autant que c'est le bon, c'est le baptême dans la mort et dans l'ensevelissement du Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est lui qui nous sauve. On l'exprime par le baptême d'eau, mais c'est lui qui nous sauve. Puis le Saint-Esprit nous baptise et il nous met dans le bénéfice de ce baptême-là pour qu'on puisse être une même plante avec le Seigneur. Ensuite de ça, on a l'imposition des mains. L'imposition des mains, ben, c'est l'identification. Ceux qui sont sauvés, là, ben, maintenant, on fait partie de l'Église universelle. Puis aussi, on doit faire partie d'une Église locale. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une œuvre à accomplir. Du moment qu'on est sauvé, on s'est identifié avec le Seigneur Jésus dans les eaux du baptême, on a été sauvé, on s'est identifié avec lui. Maintenant, on fait partie d'une Église. Il dit, n'abandonnez pas votre assemblée comme c'est les coutumes de quelques-uns. Mais moi, je suis convaincu que c'est très, très important pour un chrétien de faire partie d'une église locale. C'est sûr qu'il fait partie de l'église universelle. Ça, c'est le Seigneur, le baptême de cet esprit qui nous fait faire partie de l'Église universelle. Puis tous les croyants font partie de cette Église universelle, de la Pentecôte à l'enlèvement de l'Église. Tous les croyants, ils vont être, ça, c'est un corps, c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Mais aussi, il faut se joindre à une Église locale. Pourquoi? Ben, parce que le Seigneur a donné la grande commission. Puis moi, je suis convaincu que un chrétien qui n'est pas dans une église locale ne peut pas servir le Seigneur. Parce qu'il y en a qui pensent, ah oui, moi, je... non, on peut pas servir parce que c'est le corps. C'est les membres du corps. On est un corps pour servir le Seigneur. C'est pour ça que c'est tellement important. Pas facile. Il y en a en masse qui lâchent parce qu'ils disent, ah ben moi, ben, c'est à cause de quoi? Ben, c'est à cause de ce qu'ils m'ont fait. Le Seigneur a dit, celui qui ne se renie pas lui-même ne peut pas être mon disciple. Donc, si on n'est pas capable de supporter, puis je suis convaincu que tous les chrétiens qui sont dans une assemblée locale, ils ont eu des problèmes. Ils ont eu des choses, ils auraient pu avoir des raisons de s'en aller. Mais le Seigneur a dit, n'abandonnez pas votre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortez-vous réciproquement, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Donc, c'est important qu'on soit dans une église locale. Si un chrétien n'a pas compris ça, là, ben, il est encore à ce qui est élémentaire. Il n'est pas encore sur le fondement. L'imposition des mains, ben, c'est une identification pour faire l'œuvre du Seigneur. Parce que du moment qu'on fait partie d'une église locale, on fait partie d'un témoignage collectif. Puis, qu'est-ce que moi je fais à l'extérieur, ça représente, les gens vont dire, ah, c'est ça les chrétiens. C'est ça, regarde l'assemblée, là, c'est eux autres, ils sont comme ça. Ils vont identifier l'assemblée à mon comportement. Donc, c'est important de faire attention. On fait une œuvre ensemble. Si on détruit l'œuvre par mon, si je détruis l'œuvre par mon témoignage, ben je détruis l'assemblée. Je détruis le témoignage du Seigneur. C'est très important, ces choses-là. Ça peut aller quand un chrétien ne se comporte pas comme il faut, puis qu'il détruit le témoignage dans le péché, eh bien, qu'est-ce qui va arriver? Ben, il faut qu'il soit excommunié, puis ça fait mal. Vous savez, c'est comme une imputation. Moi, il y a un frère que j'ai connu, il s'est fait imputer les deux jambes. Il n'a pas dit, ah, ben, je suis bien content, là, ces jambes-là, ils me faisaient mal, puis j'avais de la misère avec. Non, puis ce n'est pas un gars qui s'apitoyait sur son sort. Et quand il s'est fait couper la deuxième jambe, c'est la seule fois que je l'ai vu pleurer. Il dit, c'est comme un deuil, une partie de toi qui est mort. Puis c'est ça, toute l'excommunication dans l'assemblée, ça se fait dans les pleurs, puis dans la prière pour que la personne puisse reconnaître, puis revenir. Donc, la position des mains, pourquoi? Pour faire la grande commission. C'est ça, quand Paul puis Barnabas sont allés, ils ont posé les mains parce que c'était l'extension de l'église d'Antioche plus loin. Mais ensemble, on s'identifie ensemble pour faire le témoignage pour le Seigneur. Je vais m'arrêter là, on est déjà rendu à 54. On va continuer la prochaine fois avec la résurrection des morts puis le jugement éternel dans les choses élémentaires, dans le fondement de la vie chrétienne. Paul, il a fait un peu une révision de ce qui était élémentaire que ces gens-là avaient dû comprendre pour leur fondement de leur vie chrétienne. Fait que je m'arrête là. Je vous donne la possibilité de prendre votre micro. Puis, si vous voulez, attendez un petit peu. OK, je vous donne la possibilité. Fait que vous pouvez prendre votre micro si vous avez des questions ou des commentaires.
J'aurais deux questions, Gérald, encore.
OK.
C'est un peu délicat.
OK.
Dans Matthieu 11, 28, Jésus dit, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dans le canton de l'Est, disons qu'il y a un petit peu une lacune en ce sens que lorsqu'on devrait baptiser, ce que je n'ai pas fait à date, là, de cette manière-là, on devrait baptiser seulement au nom de Jésus. Je sais pas si tu as déjà entendu ça, parce qu'ils disent, quand on va dans les Actes des apôtres, il n'est jamais question de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ils baptisent au nom de Jésus. Et puis là, ben, je m'interrogeais pour quelle raison. C'est parce qu'il semble dire que si on baptise au nom du Père et du Fils et du nom de Jésus, ça a l'air de la seigneurité au baptême, parce que on doit baptiser au nom de Jésus. C'est comme ça enlève la valeur à Jésus quand on baptise Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'était ma première question.
Si le Seigneur Jésus il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ben, je pense qu'il savait de quoi il parlait.
C'est
Mais
clair.
quand dans le livre des Actes, on voit qu'il baptisait, ça ne veut pas dire qu'il ne baptisait pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais il mettait l'emphase sur le Seigneur Jésus. Il dit, celui qui a le Fils a le Père aussi. Puis il fallait qu'il s'identifie au Seigneur Jésus, parce que lui, il avait été rejeté, là. Puis lui, il l'avait crucifié. Puis pour les Hébreux, ben c'était important qu'ils reconnaissent le Seigneur Jésus. Donc, il mettait vraiment l'emphase sur la personne du Seigneur Jésus. Et ça ne voulait pas dire qu'il ne baptisait pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur a dit qu'il faut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puis c'est ça qui est la formule.
C'est ça que je comprenais aussi.
Ouais.
Merci. La deuxième chose, je dirais, est encore plus délicate. Tu as mentionné, quand on se fait baptiser, c'est parce qu'on a eu précédemment le baptême du Saint-Esprit.
Ou le baptême dans la mort, dans l'ensevelissement, puis dans la résurrection du Seigneur,
Ouais.
comme dans Romains 6.
C'est qu'on était né de nouveau avant, puis
Ouais.
on a eu le baptême du Saint-Esprit.
Oui, puis à ce moment-là, on a eu le baptême du Saint-Esprit pour faire partie du corps de
C'est
l'Église.
bon. OK. Tu as mentionné ce qu'on dit, on le sait aussi, là. Quand on était baptisé, quand on est baptisé, on sort de l'eau, et puis c'est le nouveau Lévi. Hein? C'est le nouveau Lévi, le vieux il est mort. Mais il reste que Lévi reste avec les deux, le vieux puis le nouveau. On est d'accord? Ça va. Quand je lis l'évangile de Jean, c'est là. Quand je lis l'évangile de Jean, ça dit, quiconque est né de Dieu, il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Alors je me dis là, c'est le nouveau Lévi qui ne peut pas pécher parce qu'il était engendré d'une nature, il était en, comment tu dis ça? On était engendré spirituellement d'une nature incorruptible. Donc le nouveau Lévi, lui, il ne peut pas pécher. Le vieux, il peut pécher.
Oui.
C'est certain que le vieux, il veut donner des jambettes au nouveau.
Ouais.
Alors moi, je me dis, en tout cas, moi, je regarde toujours le nouveau. Je ne regarde pas le vieux.
Ouais, c'est ça.
Et je remercie le Seigneur de ce que je suis le nouveau. Alors, dis-moi là-dessus, qu'est-ce que tu en penses?
Bon, qu'est-ce que tu as cité? C'est 1 Jean 3, 9, là. Il dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Puis c'est ça, on met la phrase sur ne pratique pas le péché. On dit, quelqu'un qui est né de Dieu ne va pas continuer dans le péché. Et je pense pas que c'est ça que ça veut dire. Parce qu'il dit, après ça, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher. Donc, c'est un négatif. Il ne peut absolument pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Mais je pense qu'il faut lire le verset comme ceci. Ce qui est né de Dieu ne pratique pas, ne peut pas pécher. Donc, c'est cette nouvelle nature que j'ai, elle ne peut pas pécher parce qu'elle est née de Dieu, elle a été engendrée par Dieu. Mais quand je pêche, c'est comme tu disais, c'est quand je tombe dans ma chair. On pêche jamais dans l'esprit. Puis on voit le combat dans Romains aussi, dans Romains 8, le combat est là. Si on vit par la chair, on va vivre. Si on marche par la chair, on va mourir. Si on marche par l'esprit, on va vivre. C'est important de. Puis c'est ça, quand on pêche jamais en esprit. On pêche dans la chair. C'est quand on retourne à la chair. C'est quand on se laisse vaincre par la chair. Puis on n'est pas parfait. On pêche, mais quand on pêche, c'est quand on va dans la chair. C'est quand on pêche dans la chair, mais on pêche jamais en esprit, dans cette nouvelle nature-là qui est née de Dieu.
C'est bon, merci beaucoup.
Bonjour. Est-ce que je peux intervenir?
Oui.
Oui. On ne pêchera plus, mais que notre chair va être régénérée. Mais que le Seigneur vient nous chercher, qu'on ressuscite, à ce moment-là, on va avoir un nouveau corps. Là, on a un corps de chair qui est péché aussi. Parce que, tu sais, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, on pêche, soit en pensée, pas nécessairement, tu sais, pêcher grossièrement, mais On pêche.
C'est ça, parce que là, on a un corps charnel quand on va dans, mais, dans la résurrection, comme tu dis, on va être sauvé de la présence du péché. C'est le futur de notre salut. Là, on va avoir un corps spirituel qui va être complètement contrôlé par l'esprit. Présentement, il est soit contrôlé par la chair ou par l'esprit. C'est ça la bataille qu'on vit maintenant dans notre chair. C'est dans Romains 8, on voit ça, puis dans d'autres endroits aussi, là, mais dans Romains 8, il est bien expliqué. Si celui que, on ne peut pas plaire à Dieu dans la chair, on ne peut pas améliorer la chair reste la chair, puis plus on va s'approcher de Dieu, plus on va réaliser, comme Paul il disait dans Romains 7, là, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Parce qu'il voyait vraiment cette lutte-là en lui, là. Mais
C'est pour
il
ça que
avait
la vie
quoi?
chrétienne est un combat. C'est le chrétien, quand il pêche, il reste pas dans le péché. Il confesse son péché.
Ben c'est ça. Mais des fois, ça peut prendre du temps.
Oui, c'est pas instantané.
Des fois, on voit des chrétiens, des fois, moi j'ai connu des chrétiens qui ont été comme des vingtaines d'années éloignés du Seigneur. Puis il y a des gens qui viennent,
Oui.
sont pas sauvés. Il faut faire attention, on ne connaît pas le cœur, le Seigneur connaît le cœur. On ne voit pas leur salut quand ils sont éloignés comme ça, comme Jacques qui dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Je ne peux pas l'avoir. Mais moi, je vais te montrer ma foi par mes œuvres. Donc, on peut dire qu'on ne voit pas le salut dans ces gens-là qui sont éloignés. Mais quand ils reviennent, puis moi, j'ai connu des gens qui ont été éloignés des vingtaines d'années, qui sont revenus au Seigneur. Puis, ouais. Mais c'est
C'est pour
ça.
ça qu'on est exhorté à marcher selon l'esprit et non selon la chair. Il n'y aurait pas
Exactement.
d'exhortation si
Ben, c'est
il
ça, ouais.
n'y aurait pas une possibilité de pécher.
Ouais, c'est
C'est en
ça.
Galates, je pense.
Ouais, je marchais. Ben, dans Romains aussi, dans Romains 8, il dit ça, que si on marche par la chair, mais si on marche par l'esprit, là, on va vivre. Si on marche par la chair, on va mourir. Si on marche par l'esprit, on va vivre. Ça, c'est important, ouais. Puis c'est ça, la maturité, c'est d'être de plus en plus contrôlé par l'esprit et non par la chair. Et comme Jacques a dit, à la rédemption, à la résurrection, ben là, on va avoir. Là, on ne pêchera plus. On va être vraiment changé, transformé. On va revêtir l'immortalité, l'incorruptibilité. Oui, déjà 9h04. Je m'excuse, j'ai dépassé un peu. Je n'ai pas laissé beaucoup de temps. On va faire la prière pour ceux qui doivent partir. Puis, si vous voulez, on peut continuer à en parler après. Seigneur, notre Dieu, on te remercie pour ta parole. Seigneur, il y a des choses qui sont difficiles à comprendre dans ta parole, mais on sait que ton esprit veut nous éclairer pour nous faire comprendre. Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses-là. Ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous parle des choses élémentaires, mais même dans ces choses élémentaires-là, il faut bien comprendre. Puis, on te remercie, Seigneur, pour ce que tu nous dis, ce que tu nous donnes. Merci que ta parole, il faut la creuser, il faut l'exercer, s'exercer dans le discernement de ta parole. On t'en rend grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.